Bonjour.
Nous avons terminé le premier pérek des Pirkei Avot. On va commencer le deuxième pérek. Rabbi Omer, Rabbi il dit, le début du deuxième pérek, première Mishnah. Rabbi il dit, Eizu derech yeshara shi'avor lo ha'adam. Quel est le chemin droit que l'homme doit choisir? Kol shi'tiferet lo'oseha. Tout ce que est une tifère, est une gloire, l'oséa, pour ceux qui agissent, le tifère lo min ha'adam, et là aussi la gloire min ha'adam de l'humanité, des hommes. On va essayer, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Rabbi, qui c'est Rabbi? Rabbi c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, hier on avait parlé de Hillel, après on avait parlé de Rabban Gamliel, après Rabban Shimon ben Gamliel, après on saute sur Rabbi. Pourquoi Rabbi n'est pas dans le premier chapitre? Il aurait pu finir. Il a fini avec son père. Le dernier, non, pas son père, son grand-père, son arrière-grand-père. Pourquoi Rabbi ne voulait pas mettre son nom dans le premier pérek? Sûrement à cause de la modestie, pour pas apparaître dans la même Mishnah qu'on parle de Moshe Rabbeinu, première Mishnah, Moshe, Yoshua, les Nevi'im, Anshei Knesset HaGdola, Shimon HaTzadik, tous les Chachamim, Rabbi ne voulait pas mettre son nom. Ça c'est autre chose. Moi, je me mets dans le deuxième Pérek, pas mettre ensemble avec eux. C'est un chapitre à part. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui arrive. Pourquoi cet homme s'appelle Rabbi? Tous les rabbis, Rabbi Akiva, Rabbi Yeshua, Rabbi. Et pourquoi lui s'appelle Rabbi? Il s'appelait Rabbi Yehuda Hanassi. Mais on l'appelait Rabbi, parce que toute la génération l'appelait Rabbi. C'est le Rabbi de tous les Juifs. Pourquoi là, lui, il a eu ce schout d'avoir ce nom? Parce que comme la Gemara nous dit, mais depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi, lo haïta Torah, ugdula b'makom echad. Ça veut dire que Doula, ça veut dire le chef politique, l'homme le plus riche, l'homme le plus influent vis-à-vis des valeurs de ce monde, et l'homme le plus influent vis-à-vis de la Chochmat Torah, le plus grand Chacham de la génération. Les deux choses étaient Rabbi. Il y avait encore d'autres choses exceptionnelles. On dit qu'il n'y avait pas un modeste comme Rabbi. Il n'y avait pas Kdusha comme Rabbi. Yirat Shamayim était un homme très spécial, cet homme. Hachem lui a donné ses qualités. Il lui a donné une neshama grande comme ça pour sauver la Torah, pour que la Torah ne sera pas oubliée. Et donc, ils ont écrit ensemble les Mishnayot. Donc, il a reçu le nom Rabbi. Ce n'est pas qu'ils ont écrit les Mishnayot, ils ont transmis toute la Torah, mais ça, c'était le chibou qu'ils ont fait. Où il était tellement riche, Rabbi, il y avait une partie venue d'Antoninus, de son copain, le roi, l'empereur romain, Antoninus, Antoine, ça veut dire Marc Aurèle, l'empereur Marc Aurèle, qui était un homme pieux, tout le monde dit, tous les goïms, ils racontent, l'empereur, le seul empereur pieux et droit qui était, un philosophe, lui-même, il écrit des livres de Moussard, de Yirat Shamayim, de Emouna, et c'était le copain de Rabbi, c'est toute l'histoire quand Rabbi est né, on a fait la Brit Mila, et c'était interdit. Donc il était convoqué à Rome, et là-bas, une femme très importante, elle avait aussi un enfant, elle voulait sauver. Donc elle voulait sauver Rabbi, donc ils ont échangé les bébés. Donc la Gemara nous raconte, Madame Gamliel, elle a donné à boire du lait à cet enfant Goy. Et après, quand ils ont été libérés de cette histoire, ils ont revenu en Eretz Israël. Cet enfant qui a bu le lait de Madame Rabban Gamliel, la Kedusha est rentrée. Et quand il est devenu grand, il est devenu l'empereur de Rome. Il a fait des voyages. Pendant quelques années, il habitait au Proche-Orient pour faire les guerres que les Romains faisaient. Et lui, il venait souvent à Tibériade. Il avait un château et par le souterrain, il est venu étudier chez Rabbi. Il y a beaucoup de discussions dans la Gemara Rabbi Antoninus. Et c'est Antoninus, il a fait d'une sorte que de la richesse qui venait du monde entier, chaque jour, il a apporté des diamants, des perles dans la yeshiva des Révi. Avec ça, Révi, il a nourri le plus grand kollel d'Eretz Israël. Tous les chachamim étaient autour de lui, ou la majorité, afin de faire ensemble, avoir toute la Torah orale pour pouvoir faire ces Mishnayot. Réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on met dans le Mishnah, qu'est-ce qu'on met dans la Braïta, etc. Vérifier les choses et après enseigner. Après, il a donné Rabbi Chia le travail de l'enseigner à tous les enfants juifs, à tous les juifs. Donc, Rabbi le Tizoukhe, une partie de cette richesse, c'était Mina Shamaïm. Ça, c'était la contribution que Antoninus, qui était de la famille des Edom, des Esav, il descendait des Esav. Ça, c'était le travail d'Esav. Il aurait pu le faire toujours. Il aurait dû le faire toujours. Esav, il aurait dû être le complément de Yaakov. Tout l'Empire romain, il aurait pu être le complément de Yaakov, de Kalal Israël, comme ça a été entre Rabbi et Antoninus. Pour ça, Rachid dit dans le Chumash, Shnei Goyim Bebitnech, ou Shnei Leumim, Me'ayri Paredu, Yaakov et Esav. Et Shnei Goyim, la Torah nous dit Geyim, Gimel Yud Yud Mem. Ce n'est pas Gimel Vav Yud Mem Goyim, mais Gimel Yud Yud Mem. Geyim, des aristes. Socrate, Rabbi et Antoninus. C'est-à-dire quoi? Que c'est ça. Ça, c'est le but de Yaakov et Esav. Tous les empereurs romains, ils auraient pu jouer le rôle d'Antoninus. Seulement, on n'avait pas ce schout. Esav n'a choisi un autre chemin. Mais du temps en temps, c'était mitkayem, comme chez Rabbi et Antoninus. Et bien, ils avaient deux chemins, mais ils se sont complétés. À l'époque du Rabbi, ce miracle est arrivé. Alors, Rabbi Omer, Rabbi il dit, Eizu derech ishera, quelle est la route droite que l'homme doit choisir? Ça veut dire quoi? L'homme doit choisir de faire la Torah. Pourquoi il parle d'une route? Ça veut dire, ici, on ne parle pas la Torah, les mitzvot directement. On parle quelque chose d'avant, avant de faire la Torah. Derech, ou choisir une route. Quand on dit choisir une route, comme si ça dépend du choix de l'homme. Ça veut dire, si tu peux choisir, il y a des gens qui ne peuvent pas tellement choisir une route. Ils ont forcé des fois de ne pas choisir cette route que Rabbi raconte. Mais si tu peux choisir, tu choisiras. Ça veut dire quoi? Derech Eretz, Derech Etzachayim. La Gemara nous parle. Adam Arishon était chassé du Gan Eden, et après il y avait des Kruvim, il y avait des Malachim qui empêchent l'homme de rentrer au Gan Eden, Lishmor et Derech et Tzachayim. Donc pour retourner au Gan Eden, il faut prendre la route des Tzachayim. Et Tzachayim, c'est l'arbre de la vie, de la Torah et les Mitzvot. Et la Torah en Mitzvot, elle a un Derech. Derech, c'est un comportement. Un comportement, la Gemara appelle ça derech eretz, un comportement, eretz. Eretz, ça veut dire c'est la base du ciel. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Le ciel et la terre. La terre, c'est en dessous du ciel. Il y a derech eretz, et après il y a kilou vers le shamayim. Donc ce sont les midot de l'homme. La Torah parle concernant les midot en filigrane. Toute la Torah, du début jusqu'à la fin, il y a en filigrane les midot. Comment l'homme il est, le caractère de l'homme, les tendances de l'homme, avant de faire une mitzvah ou avant de faire une avera, il y a d'abord la personnalité de l'homme. C'est l'homme, il s'habitue, il est rahman, il a pitié, il est dur, il est têtu, il est doux, il est sévère, il est gentil, il est joyeux, il est triste, il est dépensier, il est accroché à son honneur ou il n'est pas accroché. Ce sont des caractéristiques. Et dans ces caractéristiques, ça c'est le derech. Comme il dit Abraham Vital, avant de faire Torah en mitzvot, il faut avoir un derech, il faut que le derech il est droit. Quand le derech il est droit, après la Torah au mitzvot est merveilleuse. Quand le derech il n'est pas bien, quand un homme il a une faiblesse dans son caractère, malgré que les mitzvot peuvent travailler dessus, mais là où les midot ne sont pas parfaites, eh ben, les kiyumat Torah au mitzvot, ils ne sont pas Ils ne sont pas parfaits. L'homme doit choisir un derech. Maintenant, Rebbe, il dit, choisis un derech yeshara. S'il faut bien choisir un chemin qui est droit. Pas un chemin tordu. C'est quoi un chemin droit? Ça veut dire quoi droit? Alors, il te dit, le chemin droit, kol shitiferet l'oseha. C'est tiferet. Tiferet, on traduit normalement une gloire pour ceux qui le fait. Ça veut dire quoi une gloire pour ceux qui fait? Quelque chose de bien, quelque chose d'excellent. Quelque chose que la personne, il sent, c'est bien. Vetiferet lo min ha'adam. Et les autres personnes qui le voient, qui le fréquentent, ils ont aussi ce sentiment, cette appréciation. Il est bien ce type. Il est bien. Il faut choisir un chemin qui est bien pour la personne et bien pour les gens qui voient. Qu'est-ce que ça veut exclure? Alors le Rambam, il parle en longueur dans ce qu'il développe dans Sefer Mada, dans Hilchot Deot. Il parle beaucoup de ses préparatifs à la Torah au Mitzvot, du caractère. Et dans le caractère, il y a toujours les extrêmes. Et après, il y a ce qui est entre les extrêmes. Et le Rambam, il dit, aucune mida, elle est bien quand elle est extrême. Extrême, un homme, il aime distribuer l'argent, il ne fait pas attention. Ou il est très près de ses sous. Ce sont deux extrêmes. Il est avare. Ou il est dépensier. Ce sont deux extrêmes. Les deux extrêmes ne sont pas bons. Pourquoi ce n'est pas bon? S'il va dépenser beaucoup d'argent, les gens sont très contents de lui. Il reçoit de lui tout le temps des cadeaux. Et lui, il va s'appauvrir. Et à la fin, il sera lui-même un mendiant. Pour lui, ce n'est pas bon. Un homme qui est rare et qui est radin, il est avare. Pour lui, c'est très bien. Il a toujours plus et plus d'argent. Mais les gens, ils n'ont pas. Ce n'est pas non plus bien. Alors l'homme, il doit réfléchir. Il faut faire quelque chose entre les deux. Est-ce que c'est pile-pile au milieu ou à peu près au milieu? Ah, yeah. Mais il ne faut pas aller dans les extrêmes. Dans la colère, un homme, il est en colère. Il est émotionnel. Ou il est... Rien ne le touche. Rien ne le touche, ce n'est pas bien. Parce que... Il y a des choses que l'homme il doit défendre, des fois son argent ou son honneur. Ce n'est pas qu'on le salit ou qu'il doit défendre si on salit injustement quelqu'un d'autre. Donc, il doit sentir qu'on y a un déshonneur. Mais il ne faut pas trop, si on cherche l'honneur, c'est une maladie. Il faut savoir naviguer entre les deux extrêmes. Ça, c'est ce que l'Éternel nous dit, il dit le Rambam. Kol shi tiferet l'oseha. C'est un prestige, il se sent bien. Il se sent équilibré. Le mot tiferet veut un équilibre, dit le Rambam. D'ailleurs, dans le langage kabbalistique, dans les dialectiques kabbalistiques, le mot tiferet représente justement aussi l'équilibre. On dit toujours, il y a chesed, il y a gvura, il y a tiferet. Chesed, c'est la bonté, le don, toujours donner plus. La gvura, c'est la sévérité, c'est la limite qu'on fait. On ne laisse pas quelque chose, se développer. Ça, c'est la gvura, la sévérité. Et tiferet, c'est l'équilibre entre les deux, c'est l'harmonie. L'harmonie entre... Le chesed et la gvura, dans la langage kabbalistique, on dit le chesed à droite, le bras droit. La gvura, c'est le bras gauche. Et tiferet, c'est les deux mélangés et bien mesurés pour que le chesed ait sa place et la gvura ait sa place. Ça, c'est tiferet, cette harmonie. Normalement, il explique, ça, c'est le chemin harmonieux que l'homme, il doit choisir. Pourquoi il doit choisir? Ça veut dire quoi, choisir? Des fois, il y a des situations que l'homme ne peut pas choisir. L'homme, il est né avec un caractère ou dans des conditions qu'il ne peut pas choisir, qu'il est coincé dedans. Il ne peut pas faire, il ne peut pas aller en équilibre. Il est obligé de vivre dans un extrême. Et l'extrême peut être justifié, mais il ne faut pas le choisir. Si on est obligé, on est obligé. Il y a des gens qui sont tout le temps obligés de se comporter d'une certaine manière. Ils ne peuvent pas prendre l'autre parce que la vie les oblige. Bon, la vie les oblige. Ou le Rambam m'explique, des fois un homme est malade. Malade dans son comportement. Il est justement toujours tenté vers une extrémité. Alors on lui demande de revenir au milieu, mais pour revenir au milieu, il faut aller d'abord l'autre extrême un peu. Il faut qu'il aille un peu l'autre extrême jusqu'il est guéri et après revenir au milieu. Comme ça a dit le Rambam. Ça veut dire que ça existe beaucoup des choses comme ça dans le monde goy, dans le monde juif. Il y a toutes sortes de sectes, il y a toutes sortes d'idées, il y a des fois des rabbanim. Ils ont un chemin un peu spécial, un peu extrême. Et il y a des gens qui ont besoin de ça. C'est un peu une maladie extrême. Toujours extrême, c'est un peu maladif. Ça dépend de ce qu'on appelle extrême. C'est toujours, ça sort du milieu. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas avec le milieu. Ils sont malades. Il y a des gens qui leur manquent de confiance. Ils vont aller chez un rav qui leur donne super confiance, peut-être un peu trop. Peut-être eux, ils ont aussi un peu trop. Alors, il le bourre. Tu es le meilleur, tu es le meilleur. Ce n'est pas le chemin normal. Mais temporairement, il dit le Rambam, on a besoin de ça. Il y a des gens qui chantent toute la journée, ils sont joyeux toute la journée. Quelqu'un qui a une tendance vers la tristesse, c'est bien qu'il aille là-bas. Pour un certain temps, jusqu'il est guéri. Et après, il revient en chemin normal. Comme ça, il y en a beaucoup de choses comme ça. Si on peut choisir, choisis le milieu. Si tu es obligé, tu es malade, c'est comme le Rambam dit un homme. Il mange des médicaments qui ne sont pas bien pour le corps. Mais s'il est malade, des fois, ils sont bien. À condition qu'une fois qu'il est guéri, il arrête. Manger d'antibiotiques, c'est super bien pour ceux qui ont besoin d'antibiotiques. Mais une fois qu'il est guéri, il faut arrêter de prendre l'antibiotique. Parce que l'antibiotique, c'est pas bon pour le corps. Tous les médicaments comme ça. Mais pour un malade, il faut combattre la maladie avec une autre chose qui n'est pas bien. Et ça, c'est Rebbe dit, choisissez. Si tu n'es pas obligé d'aller vers une extrémité, choisis le milieu. Ça, c'est le chemin que l'homme doit choisir. Tu dois sentir que c'est bien. Tu te sens équilibré. Quand tu te sens équilibré, on est libéré des tentations. Donc, on a des tentations. On est, comme hier, on avait vu avant-hier, Shabbat à la Shul, à la maison, on parle de Shavua. Negat Tzara'at qui est ben Adam. Une plaie de Tzara'at que l'homme il a. Nega. Le mot nega vient du mot negia. Negia, intérêt. Un homme il a un intérêt. Anogea badavar lodano velomeido. Un homme qui a un intérêt, c'est une plaie. L'objectivité, quand l'homme il est libéré de toutes les influences, il est maître vraiment de ses sentiments, de ses émotions. Quand il est libre, il se sent bien. Et tant qu'il est nogeya, il doit satisfaire quelque chose. Une nogeya, c'est une plaie. Nega tzarat, qui est Adam. Pour qu'il aille chez le Kohen pour se faire guérir. Alors, kol shitiferet l'otéa, l'homme, il se sent bien quand il est libéré de tout. On l'oblige de faire quelque chose. Il peut vraiment faire ce que sa neshama vraiment veut faire. Il se sent bien. Et tiferet l'omina Adam. Et les gens, ils disent, c'est bien. Il se comporte bien. Parce que si un homme, il dit, moi, je fais ce que je dois faire. Et je m'en fiche de ce que les gens y pensent. Les gens y pensent que je suis un fou. Des fois, un homme, il doit se comporter qu'on pense qu'il est fou. Mais ce n'est pas un chemin qu'il faut choisir. C'est un chemin que des fois, on est obligé de le faire. On dit sur le Sabana Novar de Grabiois Horowitz. Il a vécu en Russie sous les communistes. Et les communistes, ils ont rigolé du judaïsme, ils ont rigolé de Dieu, grâce à cela. Rigoler de leur religion, du judaïsme. Il a vu que les gens, ils étaient archi impressionné par ces rigolades. Donc, il a dit, nous sommes obligés de lutter. Donc, il a dit à ses élèves, on va lutter contre cette influence, contre être impressionné que quelqu'un rigole. Donc, il a dit, on va s'éduquer pour pas être influencé. Et là, on va dire à ses élèves, vous allez à la boulangerie. Bonjour, vous voulez acheter quoi? 1 kilo de clous. 1 kilo de clous, c'est une boulangerie ici. Et alors, je veux 1 kilo de clous. Mais dites-moi, vous êtes fou, mais dégagez. Il est parti. Après, il est parti chez les quincailleries. Bonjour, bonjour, qu'est-ce que vous avez besoin? 1 kilo de pain. 1 kilo de pain, c'est une quincaillerie. Moi, je veux du pain. Mais vous êtes fou, dégagez. Alors, c'était un apprentissage. Ils n'ont qu'à me prendre pour des fous. Qui me prennent pour un fou, il a appris que te prend pour un fou, et c'est que comme ça que tu peux résister après. C'est pour un certain temps, il faut apprendre ça. Quand on sent qu'on est trop faible devant des gens qui rigolent, eh bien, on fait un apprentissage. Après, il faut arrêter ça. C'est pas joli. Un Bahor Yeshiva se fait passer pour un fou. Alors, il se fait passer pour un fou. C'est la Torah. Les gens, ils disent, mais ils sont pas normaux, ces gens-là. C'est pas beau. Il faut faire être l'eau, minha Adam. Il faut que l'homme, il a la gloire, que les gens, ils disent, il est bien. Comme on dit la Gemara, c'est quoi un Kiddush Hashem? Celui qui a étudié la Torah, celui qui fait les mitzvot, venosé, venoten be'emuna. Il fait business honnêtement. Venosé, venoten be'emuna. Il parle correctement avec les gens, agréable, que les gens ils disent, il est bien. Ashrei aviv shelim do Torah, ashrei rabo shelim do Torah, heureux son maître, heureux son père qui lui a enseigné la Torah. Ploni ru, ploni kama, metukanima asav, regardez comment la Torah qu'il a étudiée fait qu'il se comporte bien. Ça, c'est Tiferet Lomin Ha'adam, c'est très important. Si on n'a pas Tiferet Lomin Ha'adam, c'est quelque chose de tordu, c'est pas bon. Alors, si tu es obligé de le faire, tu le fais, mais si tu peux choisir de ne pas le faire, choisis pas le faire. Et même le Oseh, toi, tu dois te sentir bien. Pratiquer un judaïsme que l'homme ne se sent pas après bien. Il se sent souffrant. Quelqu'un qui va faire des ta'aniot, et ça le rend nerveux. Et il ne peut pas dormir. Et il fait des mitzvot. Il marche dans un chemin de judaïsme, mais même il souffre de ça. Il n'aurait pas voulu être dans ces situations. Il ne faut pas choisir ça. Tant que tu peux choisir un chemin que tu te sens bien et heureux, choisis un chemin qui est heureux. Maintenant, Rebbe continue à dire, fais attention sur une mitzvah légère que bachamura, comme tu fais attention sur une mitzvah qui est grave, qui est lourde. Parce que tu ne connais pas combien de salaire il y a pour la mitzvah. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que ça existe des mitzvot kalot, des mitzvot chamurot? Ça existe ou ça n'existe pas? Ou là, tous les mitzvot sont kalot, ou toutes les mitzvot sont chamurot. La Mishnah, mashma, ça existe. Il y a des mitzvot kala, il y a des mitzvot chamura. Ou non, le Tani veut dire, fais attention les deux parce que les deux, c'est les mêmes. Il n'a pas dit que les deux, c'est les mêmes. Il a dit, le sahar des deux, tu ne connais pas. Il y a des mitzvot kalot, il y a des mitzvot chamurot. Et sur quelle base on se base de dire ça, c'est kal, ça, c'est chamur? Alors, si c'est pour la Averot, il est marqué dans la Torah. Il y a un Gemara à la fin du Yuma. On nous développe exactement la gravité de chaque chose. Il y a à faire une petite Avera. Il y a à faire une Avera plus grande, qu'on est Chayav Malkout dessus. Après, il y a une Avera qui est plus que Malkout, il y a Chayav Mita Bedei Shamaim. Il y a une Avera plus grave, qu'on est Chayav Karet. Après, il y a une Avera qu'on est Chayav Mita Bedei Adam. Exécuteur Bedin, il y a des graduations et la graduation selon la gravité de la Avera. Et comme je connais la gravité de la Avera, selon la gravité de la punition. Alors, la punition est écrite dans la Torah. Donc, je sais la gravité. Donc, si quelqu'un il se trouve devant deux avérotes et il est obligé de faire une des deux, il est obligé, puis on peut croire en FS, eh bien, il fera la plus petite. Si on fait la plus petite, Kalachamura. Maintenant, pour les mitzvot. Pour les mitzvot, il n'est pas marqué dans le Torah la récompense. Averot, c'est marqué la punition. Il n'est pas marqué quelle récompense tu as. Pourquoi il n'est pas marqué? Ça n'est pas marqué. Parce qu'on ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce que c'est. C'est en le davasof. Dans la Torah, il est marqué qu'une expression. Veharachta yamim. Et tu auras une longue vie. C'est-à-dire quoi, une longue vie? On fait les mitzvot, on ne fait pas les mitzvot. Ce n'est pas un grand afkamina dans ce monde. Donc, Olam Shekulotov, bien sûr, dans l'autre monde. Et cette expression, il est marqué sur la mitzvah la plus facile à faire et sur la mitzvah la plus difficile à faire. La mitzvah la plus facile à faire, c'est chez Louach Haken. Tu trouves un nid d'oiseau et tu dis, ah tiens, il y a des œufs. Aïe, je vais manger cet œuf. Aïe, aïe, c'est bien, je vais manger cet œuf. Elle n'est pas à moi, mais elle est Efker, elle appartient à personne, j'ai le droit de manger. J'ai le droit de prendre. Ça appartient à personne. Alors il veut prendre. La Torah nous dit, attends, ne prends pas les œufs avec la mère. Ne prends pas les œufs devant la mère. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends la mère, tu la renvoies. Après tu prends les œufs, tu peux manger les œufs. Voilà, ça c'est la mitzvah. Ça coûte rien du tout. Je l'ai trouvé par hasard dans la rue. Et bon, je dois renvoyer la mère. J'aurais peut-être voulu prendre la mère aussi. Alors l'oiseau, ça coûte 1 euro, le pigeon il coûte 1 euro. Bon, il faut que je renvoie la mer, d'accord. Après, je peux prendre. La Torah nous dit, Va'arachta yamim. Tu vas avoir une longue vie pour ça. C'est une mitzvah très profonde. Très, très profonde. Et tu auras un olam haba, une vie éternelle. Triatamitim. Triatamitim, tellement ce petit geste. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Et quand la Torah nous raconte la mitzvah la plus difficile pour beaucoup de gens, Kibud Av V'Em, quelqu'un qui a des parents âgés, il doit s'occuper des parents âgés. Des fois, ils sont en bonne santé, des fois, ils sont en moins bonne santé. Et des fois, là, ils ont la tête, et des fois, ils ont moins bien la tête, etc., etc. Et c'est très difficile de s'occuper des parents qui sont vieux. Et bon, avant, les gens, ils ont toujours la coutume de penser, c'est quand on est jeune, on a 10 ans, il faut écouter ce que papa, maman dit. Comme ça, les jeunes, ils s'imaginent. Ça, c'est Kibodavam. Kibodavam, un enfant, il doit écouter ses parents. Et c'est difficile pour les jeunes. Mais c'est pas ça, le Kibodavam. C'est pas ça la grande difficulté. La grande difficulté, c'est quand les parents, ils sont âgés, et que les parents, ils ont besoin, les enfants, que les enfants, ils s'occupent. Et là, Varachtayamim, la manita vlach marachtayamim. Combien d'olam haba? À l'infini. Pour la mitzvah la plus facile et pour la mitzvah la plus difficile, les deux marachtayamim. Tous les mitzvot quand on sont au milieu aussi, c'est la plus facile et la plus difficile marachtayamim. Donc ceux qui sont au milieu aussi marachtayamim. Combien marachtayamim? La Torah ne te dévoile pas. Mais la Mishnah Mashma, ça existe qu'à la Khamura. Tu fais attention à la mitzvah qui est kal et qui est chamour. Parce que c'est vrai qu'il y a, des fois, Chachamim, il dit, cette mitzvah keneged kol mitzvot. Tzitzit keneged kol mitzvot. Shabbat keneged kol mitzvot. Yamim tovim se keneged kol mitzvot. Kriyat shama keneged kol mitzvot. Il existe des expressions chamour et kal. Et ça change quoi? Ça peut changer dans un cas où un homme ne peut pas faire les deux mitzvot. Il se présente deux mitzvot devant l'homme, mais il ne peut pas faire les deux. Impossible. Il n'a pas assez d'argent, il n'a pas assez le temps, il n'a pas assez de la force. Il faut choisir une des deux. Si on choisit une des deux, il faut choisir la chamoura. En tout cas, la chamoura, il faut choisir la chamoura. Mais Rebbe, ce qu'il dit, il ne dit pas quand tu dois choisir. Choisis, tu choisis la chamoura. Et quand tu peux choisir les deux, tu peux faire les deux, alors tu vas dire, je prends la chamoura, je laisse la kala. Ne fais pas ça. Le kala aussi est important. Fais attention sur la kala aussi, parce que tu ne connais pas. C'est comme la nourriture, ils disent. Un homme, il mange. Qu'est-ce qu'il faut manger? Il faut manger du sucre, c'est-à-dire le sucre lent, pour manger des protéines, pour manger des glucides et de l'huile. Il faut manger des vitamines, il faut un peu du sel, un peu du zinc, un peu de fer, un peu de... Il y a toutes sortes. Pas dans la même quantité. On n'a pas besoin de la même quantité ça que ça, mais chaque chose est importante. Et quand il manque quelque chose, des fois dans le corps il manque quelque chose, il manque un peu de magnésium. Il y a des gens qui sont, je ne sais pas, ils sont nerveux. Et on ne sait pas qu'est-ce qui leur arrive. Il manque de magnésium. Un produit sur 1000 produits que le corps a besoin, il manque une. Et cette une peut déranger la personne. Parce qu'il manque une chose dans le corps, le type, il est dérangé. Il est dérangé surtout ce qui fait un homme qui est nerveux. Il rate beaucoup de choses dans sa vie. La nervosité déstabilise beaucoup de choses. Et il faut lui donner du magnésium. Il y a un élément. Comme ça, c'est dans la Rouhaniyout. Une mitzvah, peut-être c'est cette mitzvah qui va te stabiliser. Birkat Hamazon et Kavana, bon, c'est pas trop difficile. Ça coûte pas grand-chose. Ça prend pas trop de temps. On n'a pas besoin de faire un trop grand effort. Une petite mitzvah. Peut-être c'est, qu'est-ce que tu sais, peut-être c'est ça le magnésium qui te manque, le magnésium de ta le neshama qui te manque. Cette mitzvah, cette bracha, ce petit geste, des milliers de petits gestes que l'homme y fait dans sa journée qui sont des mitzvot, fais attention, fais bien ça, et fais bien ça. Il y a des mitzvot qui sont chamurot, talmud Torah, keneged kulam, on dit la talmud Torah, c'est équivalent à tout. Voilà ici un homme, il peut choisir talmud Torah, ou il peut choisir une autre mitzvah. Si tu peux choisir, choisis talmud Torah, mais néglige pas la petite mitzvah. Maintenant, tu dois faire chatamai. Maintenant, tu dois faire chakol nibedvaro. Faire chakol nibedvaro correctement. Petite mitzvah. Peut-être c'est pile ça que ta neshama a besoin. Et tu ne connais pas le haran chez le mitzvot. Tu ne sais pas quel est le sachar de la mitzvah. Hachem, il a caché le sachar de la mitzvah justement pour que les gens ne négligent rien du tout. Ils ne savent pas. Et attention sur chaque mitzvah. Pourquoi Rebbe dit ça? Rebbe répétait ça dans sa vie. Ça veut dire que ce sont des enseignements que les gens de sa génération devaient l'entendre. Alors, vis-à-vis de la première chose qu'il a dit, le chemin équilibré. C'est-à-dire que Rebbe, il a vu dans sa génération qu'il y avait des différents chemins, des sectes. Peut-être il existait encore les Issyim, par exemple. Je donne un exemple sur beaucoup. Les Issyim, c'était une secte qui se détournait du peuple. Ils ont vécu en dehors, dans les champs, dans le désert. Et ils ont été ils jeûnaient beaucoup, ils mangeaient peu, très derechérets, très, mais toujours entre eux, ne fréquentaient pas les gens, se séparaient du monde. Des gens, Purushim comme ça, mais pas comme les Purushim, les Chachma Israël, qui ont vécu avec le peuple qui était. Avec le peuple, dont le peuple, ils étaient des Purushim au milieu du peuple. Eux, ils étaient des séparés en dehors du peuple, avec des comportements très spéciaux. Il y avait des gens très bien chez eux. Flavius, quand il raconte en sa jeunesse, il était pendant 3 ans, il a fait aussi comme ça, 3 ans, il a étudié chez eux. C'est des gens merveilleux, mais il a dit, après, je suis revenu chez les Chachamim. C'est beaucoup plus équilibré, ce chemin. Rebbe, il a vu dans sa génération, des gens qui deviennent bizarres. Il dit, ne devenez pas bizarre, ne fais pas vos midot bizarres. Restez, tu verras l'homme et Adam, et tu verras l'océan. Et après, ce que Rebbe a vu, que les gens ils négligeaient les petites mitzvot. Il a dit, ne négligez pas les petites mitzvot, il ne faut pas les négliger. Troisième enseignement que Rebbe a fait, Rebbe Mechashev, Hefsed mitzvah, Keneged Sechara. Mechashev, fais un calcul. Alors là, il faut les comptables. Là, que les comptables sortent les stylos. Et Mechashev calcule, Hefsed mitzvah, la perte d'une mitzvah, Keneged Sechara, vous le mettez en face du salaire. Ça veut dire quoi? Quand un homme, il a un business, il veut gagner d'argent. Alors, gagner d'argent, il faut aussi perdre d'argent. Il faut payer. On ne peut pas gagner sans perdre. Tu as investi. Après, tu gagnes. Mais, à condition qu'on gagne plus qu'on perd. Si tu perds plus que tu gagnes, tu peux fermer la boutique, ça n'a pas la peine. Alors, il faut faire des calculs. Je gagne ça, 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 c'est les entrées, ça, c'est les sorties. Après, on regarde. On est gagnant, on est perdant. Ça vaut la peine de faire cette affaire. Ça ne vaut pas la peine de faire cette affaire. Alors, Rebbe, il dit, quand tu fais une mitzvah, tu gagnes et tu peux perdre aussi. Qu'est-ce que tu peux perdre, hein? Tu as du temps, peut-être d'argent, peut-être les gens ils vont pas apprécier. Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas gagner de Olam Haba, tu vas gagner une kedusha, une mitzvah. Alors, ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine? Alors, qu'est-ce que dit Rebbi? Eh bien, calcule. Mets sur un papier ce que tu perds, mets sur un papier ce que tu gagnes. Et calcule. Comment je vais calculer? Combien cette mitzvah va te donner? La mitzvah, elle te donne le bonheur dans ce monde et le bonheur dans l'autre monde. Une mitzvah, elle te donne tellement beaucoup de sachar. Et la perte dans ce monde. Tu vas perdre ici 20 euros, de l'autre côté, tu vas gagner pour l'éternité. Vas-y, calcule. Et après, ce sera facile de faire le choix. Et regarde, sachar avira, ce que tu gagnes avec la avira, keneged efseda, ce que tu perds. Et tu verras que la perte, elle est beaucoup plus grande que ce que tu gagnes. Alors donc, c'est une mauvaise affaire. Une mauvaise affaire, on ne fait pas. Istakel, regarde, bishlosha dvarim sur trois choses. Istakel, c'est pas veut dire exactement regarder. Roé, c'est regarder. Istakel veut dire observer, fixer, bien regarder. Istakel, c'est bien mettre les yeux pour bien saisir. Sur trois choses. Via taba, l'idée avira, et tu ne viendras pas pour pécher. Il dit pas, tu pécheras pas, et tu viendras pas pécher. C'est-à-dire, ça se prépare même pas le péché. L'idée avira. Yadei avira. Yad, c'est la main. C'est une manche. La main de la avira. Il y a une avira. Il y a la manche de la avira. On attrape l'avira pas directement, mais par la manche. On l'attrape par la manche. Une avira est une introduction de l'avira. Et si on rentre dans l'introduction, après on est pris dans l'avira. Mais il faut s'éloigner pas que de l'avira, il faut s'éloigner de la manche de l'avira, de ce qui amène. Veinataba l'idée avira. Tu n'arrives même pas aux mains de l'avira. Quelle chose il faut vérifier? Da sach ma le ma la mimcha. Sache ce qui est au-dessus de toi. Qu'est-ce qui est au-dessus de moi? Ein ro'a, un œil qui voit. Ve'ozen shomat, une oreille qui entend. Ve'chol ma'asecha, ve'sefer nichtavim, et toutes tes actions dans un livre y sont écrits. Alors, qui est cet œil? Kadesh Baruch Hu. Ou les malachim, Kadosh Baruch Hu gère le monde par des délégués. L'homme, il est entouré par des anges. Il est entouré par des caméras. Il est entouré par des enregistreurs. Tout est enregistré. Il y a un œil qui voit, il y a un malach qui voit. Ce malach, il demande après son frère, vous écrivez. Après, il y a un malach qui entend. Et d'écrire son frère, écrivez tout ce qu'on a vu, tout ce qu'il a fait. Ça, c'est le Maala Mimcha, ça vient du ciel. On dit que le Chafetz Chaim, il a dit que Akadosh Baruch Hu, dans notre génération, il a donné l'intelligence de faire. À l'époque, les enregistreurs, c'était pas encore de. C'était les premiers gramophones. On pouvait enregistrer, on écoute après. Dit le Chafetz Chaim, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé ce phénomène aujourd'hui? Parce qu'autrefois, les gens, ils ont lu cette Mishnah, ils croyaient. Il y a un œil qui voit, la Mishnah dit un œil qui voit, point la ligne. Après sont venus les sceptiques, qui me disent comment le ciel il peut voir, comment Dieu peut voir. Un homme, il peut voir, et je ne vois pas comment, c'est n'importe quoi. Je parle, Personne m'entend. Parle de la Shonara. Il n'y a personne qui entend. Jamais va se savoir. Alors, il a fait un enregistreur. Maintenant, les gens, ils voient, oui, c'est enregistré, c'est juste. C'est pour plus facilement saisir la chose. Ça, le Rav Yitzchak a dit il y a 100 ans. Mais aujourd'hui, cette vérité, elle est encore 10 fois, 20 fois, 50 fois plus actuelle. Aujourd'hui, c'est Mamash qui est plutôt que Mashmao. Et Mamash, c'est un héros. Tu marches dans la rue, tu es filmé. Tout est filmé. Tu entres dans une synagogue, tu es filmé. Partout où tu es, et c'est phénoménal, à part que Google te filme et les satellites américains te filment, et tout ce que tu dis, il a entendu, et Assange, il a sorti, comme il s'appelle là-bas, le truc. Même ce que les présidents y parlent, ce qu'ils écrivent, 250 000 documents top secret des Américains, des Russes, ils dévoilent, ils crachent, les hackers, ils rentrent. Tout est. Tu parles au téléphone, tu envoies des SMS. Waouh. Il y a des gens qui écrivent des SMS qui ne sont pas cachés. Un homme, il peut écrire à une femme des choses sur un petit SMS, une femme à un homme. Ici, le mari de cette femme tombe sur son portable. Quand la femme regarde l'ordinateur de son mari avec qui il a une correspondance. Aujourd'hui, toutes les magouilles, on le sait. Et la police écoute, pas seulement en Russie, en Syrie, là où il y a des dictateurs qui vérifient. Même en France, il faut savoir, il y a des juges qui donnent la permission pour faire des écoutes. Oui, ça c'est pour la forme, mais en vérité, il y a beaucoup plus des écoutes que le juge. Mais on ne le dit pas officiellement parce que le droit de l'homme, compagnie, mais bon, quand ils veulent coincer quelqu'un, ils coincent quelqu'un. Quand on veut faire un redressement fiscal sur quelqu'un, eh bien pendant une année avant, ils ont écouté les téléphones, ils ont regardé ses mails, etc. Et après, hop, on y tombe dessus. Et ça, c'est que ce sera des péchés vis-à-vis de ce que le tribunal terrestre juge ou vis-à-vis de ce que le tribunal céleste juge. C'est encore plus fort. Au ciel, ils ont des hackers plus forts. Pas besoin des hackers. Il y a un œil qui voit tout. C'est bon comme ça. Ça va sortir, ça va assainir la situation. C'est très dangereux, mais ça va assainir. En Amérique, il y avait des scandales dernièrement, dans le reste du monde aussi. Des gens qui, impunément, ils ont fait des choses immorales. Et personne, il osait de les attaquer. On n'ose pas les attaquer. Aujourd'hui, on balance, il n'y a pas de problème. C'est très dangereux, évidemment. On peut mettre sur la sonara, rechilou, totsachemra, chasvishalom, grave. Et même si quelqu'un a péché, il veut faire teshuva, le balancer quand il veut faire teshuva, c'est très grave, et lui faire entendre en public, on peut détruire. Mais de l'autre côté, c'est un moyen extraordinaire. Et ça va continuer comme ça jusqu'à Mashiach, il vient. Comme il est dit Shlomo HaMelech, sauf d'avoir. Hakol nishma et Elokim mira et mitzvotav shemor izeh kol ha'adam. Sauf davar hakol nishma. À la fin des choses, tout sera entendu. Tout on va dévoiler. Chazal ils disent quand l'homme il arrive après son 20 ans au ciel, on lui montre toute sa vie devant lui. Devant lui et devant le Bedin shel Ma'ala, il aura honte pour ce qu'il a fait. Il sera fier pour le mitzvot qu'il a fait. Il y a des gens qui font des mitzvot et personne ne les sait apprécier. Et ils sont tristes. Les gens, ils ne savent même pas qu'est-ce que je fais. Ou qu'est-ce que je souffre pour une mitzvah. Ou qu'est-ce que je souffre, Stam. Étant donné que souffrances sont des mérites. Quand un homme, il souffre, c'est kaparat avonot. Spécialement quand il souffre, pour rester honnête. Ou pour le bien. Ou même Stam, comme ça, il souffre. Il souffre et garde son bonne humeur. Et même s'il ne garde pas son bonne humeur, à plus forte raison s'il garde son bonne humeur, il souffre. Mais personne n'est au courant. C'est dommage. Si j'aurais eu quelqu'un qui souffre avec moi, je m'aurais soulagé. Mais il n'y a personne qui est au courant. Faux. Alors, il faut. Il voit que tu souffres. Tu crois que tu souffres seul? Jamais, non, mais il souffre seul. Il y a toujours Hachem, il est à côté de lui. Hachem, Il y a Erez de Vaï, il est sur le lit du malade. Quand on visite un malade, et le malade, s'il est sur un matelas par terre, on n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise, parce qu'on sera au-dessus de la Shrina, parce que la Shrina, elle est à l'Erez de Vaï, à Kadesh Baruch Hu, il est avec le malade. Et pas seulement avec le malade, il est avec le pauvre, il est avec le souffrant, dans toutes les situations. Hachem, il voit, il y a un roi sur ça aussi. Tu fais une mitzvah, l'œil voit, ne sera pas perdu, n'a pas peur. Ah, j'aurais voulu que tout le monde voit qu'est-ce que je donne tzedaka. J'aurais voulu que tout le monde voit que je fais une belle amida. Tu n'as pas besoin que les gens y voient, que tu as un œil, que tu es filmé au ciel, ils vont le voir et ils vont se rappeler. Kol maaseh b'sefer nichtavim, ce ne sera pas oublié. Ni les avirot, ni les mitzvot. Maintenant, si on fait un avira, j'aurais bien voulu que ce sera effacé. En effet, tu fais tes shuvah. Quand on fait tes shuvah, ça sera effacé. Le film sera coupé. L'homme, il arrive après 120 ans au ciel. Et il est mitzvot, et après il fait un avira. Mais il a fait shuvah, ce sera coupé. Mais si tu coupes un film, les gens, ils remarquent, ah, ici, il y a une coupure. Ici, il y a quelque chose qui tourne par an. Mais au ciel, ils savent bien couper. Ils coupent de façon ni vu ni connu. Aïn roi. Donc, si tu réfléchis bien que tout ce que tu fais est vu, est entendu, est écrit avec une encre qui reste, eh ben, tu n'arriveras pas à faire un avira. Tu ne feras pas d'avirot. Tu es sûr que c'est bon. Tu es dans les bonnes mains. Donc, Rabbi, il a répété ça pendant sa vie parce qu'il a vu que les gens, ils faisaient peut-être un virot en cachette, ou ils ne voulaient plus faire des mitzvot en cachette, ou ils étaient découragés quand ils ont fait un mitzvot. Ils ont dit, elle ne m'a rien apporté. Elle t'a apporté, elle est écrite, elle est vue, et tu vas profiter dans l'autre monde de cette mitzvot. Prochaine mitzvah, prochaine Mishnah. Rabban Gamliel beno shel Rabbi Yehuda Hanassi, Omer, maintenant c'est le fils. Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, ce qui a pris la Nesiut après lui. Rabbi, il avait deux fils, Shimon et Gamliel. Gamliel et Shimon. Alors, Gamliel était Rabban Gamliel devenu le Nassi. Il a fait Talmud Torah im Derech Eretz. Il est beau l'étude de la Torah avec Derech Eretz. Ici, Derech Eretz veut dire la Parnassa, s'occuper d'une Parnassa. La fatigue des deux fait oublier le péché. C'est-à-dire, un homme, il se fatigue dans l'étude, ou un homme, il se fatigue dans le travail. Les deux choses font oublier le péché. Quand on n'étudie pas, et quand on ne travaille pas, oisif, alors dans l'oisiveté, alors toutes sortes de choses farfelues peuvent entrer. Mais l'étude de la Torah et le fatigue du travail, ça fait oublier le péché. Et le mieux, il y est vers les deux ensemble. Im derech eretz. Tu fais Talmud Torah avec derech eretz. Les deux choses ensemble. Pendant ton sort dans Yuma, Rabbi Elchanan, Rabbi Notam, il y a toute une discussion. Est-ce que c'est la Torah, le Torah le plus important et le derech eretz, le parnassa annexe ou le contraire? D'après Rabbi Notam, c'est derech eretz l'ikar. La Torah, c'est l'annexe. D'après Rabbi Elchanan, la Torah, c'est l'ikar. Derech eretz, l'annexe. En tout cas, c'est bien les deux choses. Le travail des deux choses, ça fait oublier le péché. Ça, c'est le Chovat al-Vavot, il dit. Quand Adam Arishon, il a fauté, il était maudit. Et qu'est-ce qui était maudit? Bezeat apecha tochal lechem. Au sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Ça veut dire quoi? Si tu n'avais pas péché, tu aurais pu rester au Gan Eden, tu aurais pu cueillir les fruits. Mikol et Sagan. Tu peux manger tous ces fruits. Ils poussent tout seuls. Tu n'as pas besoin de planter, ni arroser, ni désherber. Tout est frais. Maintenant, tu as péché. Ah ben, c'est au sûr de ton front, tu manges à ton pain. Alors, Chovat al-Avot, il dit, quel est le sens? Pourquoi Dieu il a choisi le sueur, le travail pour gagner le pain? Cette personne, c'est une punition. Tu as fauté. Comme ça, tu vas sentir. Et c'est grave de ne pas écouter Hachem. Tu as la vie difficile maintenant, tu as trouvé la Parnassa, c'est difficile. Comme ça, tu saches, il ne faut pas se rébeller contre Hachem. Et Chovat HaLevot, il dit une autre chose. Si tu avais été au Gan Eden, tu n'aurais pas péché. Tu aurais occupé ton temps de Avodat Hashem, le Ovda ou le Shomra. Le Ovda, Zomitzot Asei. Le Shomra, Zomitzot Lota Asei. Il serait occupé de contempler Hashem, la Avodat Hashem, qu'Adam Rishon devait faire au Gan Eden, c'est immense Avodat Hashem. Mais maintenant que tu fais des Averot, alors maintenant Hashem, il dit, j'ai un problème. Tu n'occupes pas ton temps pour l'Ovda. Alors, qu'est-ce qui va devenir? L'Etzara, il va t'attraper. Maintenant, si tu ne travailles pas, tu as du temps libre, mais tu ne l'utilises pas, l'Ovda, pour servir Hashem. Donc, tu risques de tomber dans le péché. Je ne veux pas que tu tombes dans le péché. Vas-y, tu as Oved Hashem. Oui, mais il a perdu maintenant Adam Arishon d'être Oved Hashem. Mais je veux te sauver que tu ne fais pas des péchés. Eh bien, Bezeyat Apechatouch Alechem. Je vais te demander de gagner ton pain avec le sueur de ton front. T'as faim? Oui, j'ai faim. Alors, vas-y, mange, mais il pousse rien. Eh bien, labour. Mais labourer, ça fait transpirer. Eh oui, voilà, c'est. Bon, alors il va transpirer. Une fois qu'il a transpiré, travaillé, il n'a pas le temps de pécher. Il sait que le travail dur protège l'homme du péché. Il dit, le Chovat HaLevavot, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné une. La klala, c'est une bracha. Chaque klala qui est écrit dans la Torah, c'est toujours une bracha. C'est d'après cette situation, quand Noach, il a dit, Eved Avadim Yelechav, dans la situation que le pauvre Cham et le pauvre Canaan, ils sont tombés dans cette perversion. Maintenant, pour vous sortir de cette perversion dans laquelle Cham est tombé, le chemin, il passe par Eved Avadim. Maintenant, soit l'esclavage, c'est une bracha pour toi. L'esclavage, c'est une grande bracha pour quelqu'un qui a besoin de cette bracha. Maintenant, si quelqu'un, il peut se sortir, si il aurait pu sortir Eliezer Eved Abraham, il a pu sortir de cette klala, il était un Eved, il a fait comme il faut, sans avdout, il a réussi à s'en sortir, il n'a plus besoin de cette la klala comme bracha. Il peut avoir directement Baruch Hashem, il est béni tout de suite. Alors, le travail fait oublier le péché. Et il dit, les deux, c'est bien les deux. Parce que Kol Torah She'enim HaMalacha, Sofa Betila, Vekorer HaTavon. Chaque Torah où il n'y a pas un travail pour gagner la vie avec, Sofa Betila, à la fin, elle s'annule, Vekorer HaTavon, et attire des péchés. Quel péché? Quand on n'a pas de parnassa, alors on risque de voler. On risque de ruser, on risque de tricher, on risque de menacer, on risque de faire des gens qui n'ont pas de métier, ils risquent de faire des manipulations, embrouiller les gens pour que les gens leur donnent de l'argent avec toutes sortes de techniques. Il y a des milliers de techniques comment extraire de l'argent de quelqu'un. C'est parce qu'on a faim, parce qu'on n'a pas de métier. Alors, pourquoi c'est Rabban Gamliel qui raconte ça? Pourquoi c'est Rabban Gamliel? Pourquoi dans sa génération? Mais le pshat, il est. Adai Moshe Rabbeinu, il a dit ce Mahamar. Mais dans sa génération, il a répété. Parce qu'il y avait deux générations avant lui où les Rabbanim ne disaient pas ça. Le père de Rabban, lui, était qui? Rabbi Yehuda HaNassi. Rabbi Yehuda HaNassi était riche. Il a reçu l'argent d'Antoninus, c'est l'autre argent qu'il avait. Il a payé le plus grand kollel d'Eretz Israël. Il a réuni tous les Chachamim. Donc les gens, ils n'étaient pas obligés de travailler. Ils ont pu ensemble étudier. Il y a une bracha spéciale. Donc, Rabbi Yehuda HaNassi n'a pas dit, vas-y, prends une partie de ton temps au travail. Non, reste au collège, je te paye. Et avant Rabbi Yehuda HaNassi, qui était le Gadol Hador, Rabbi Yehuda Bar Abilai, ce qui a reçu la Torah après que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont iftar, Vaya Olam Shamem, le monde a été détruit. Pourquoi ils sont morts? D'après la Gemara, il semble que c'était une espèce de peste. Mais Rav Shri Ragon, il dit, c'était persécution des Goyim, c'est ça le sens de la Gemara. Les Goyim, ils ont massacré les élèves de Rabbi Akiva. Après, à la fin de sa vie, il a eu encore 5 ou 7 élèves, les grands élèves, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Meir. Alors Rabbi Yehuda Bar Abilai était le plus grand, Rabbi Yehuda Bar Abilai, et le Gadol Hador. Et la Gemara nous dit sur lui, Rabbi Yehuda bar Avelay, היו שישה מתכסים בטלית אחד ועוסקים בתורה. Ils étaient archi pauvres. Les persécutions des Romains étaient tellement graves. Et ceux qui étudiaient, ils étaient très pauvres. Et Rabbi Yehuda bar Avelay, il a encouragé. Shisha mitkasim betalet echad, à tel point, la Gemara nous raconte ce qui rachène vevel yofi, ici ratashem iti talal. La Torah du Sheker, c'est vis-à-vis de la Torah des Emet. Et à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas une Torah comme à l'époque de Rabbi Yehuda bar Avelay. Parce qu'il y avait la grande souffrance de la pauvreté. Ça, c'est comme il dit le Rabban, c'était le Dor Hashmad. Le dor du Shmad, le dor, la plus grande persécution du peuple juif à l'époque de la Roma, c'était cette génération. Et Rabbi Yehuda bar Avelay, il a dit étudier, étudier. Donc, même dans la pauvreté, il fallait sauver la Torah. Amshat, il dit, c'était la génération de Chizki HaMelech qui l'a dit, ne travaillez pas. Que tout le monde se mettait à étudier parce qu'à l'époque de Chizki HaMelech, la Torah était en archi-danger parce que les 10 tribus sont parties en exil. Il ne restait que les Juifs d'Yerushalayim. Il a dit la Torah est en danger, que tout le monde se mettait à étudier, que personne ne travaille. Comme ça, il dit Chizki HaMelech. La Gemara nous dit la Torah de Moshe Rabbeinu, à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est comme Sheker vis-à-vis de la Torah de Chizki HaMelech. Après, la Gemara nous dit Chizki HaMelech, sa Torah, c'est comme du Sheker vis-à-vis de Rabbi Yehuda bar Avelay. Rabbi Yehuda bar Avelay, il dit aujourd'hui, on est obligé de sauver la Torah. Ne regardez rien du tout, ne travaillez pas, étudiez. Après les énergies de Rabbi Yehuda bar Avelay, est venu après la génération des Rebbi, la richesse. Il paye à tout le monde. Alors, de nouveau, on ne travaillait pas. Après Rabbi Gamliel, ça y est, on n'est plus dans la pauvreté de l'époque de Rabbi Avelay, Baruch HaShem, les Juifs, c'est une normale vie. On n'est pas dans les persécutions. La richesse de mon père, on n'a plus à notre époque. On revient en stade normal. Normal. Et quoi, Torah? C'est quoi? Il a fait un motoram derech eretz. On dit que la Chazon Ish l'a dit après la Deuxième Guerre mondiale. Et tous les Juifs qui peuvent aller étudier, étudient, étudient. Parce qu'il a vu que 6 millions de Juifs sont niftar, les grands yeshivot, les petits yeshivot, les batimid rachim, tout était necherav. Et aujourd'hui, la Torah est en danger. Les gens, ils veulent tous devenir médecins, ingénieurs, et ils veulent devenir riches. Et personne, alors il dit qu'on se mette à étudier. Je pense qu'il a. Il a raisonné comme Rabbi Yehuda bar Avelay. Maintenant, il faut que tout le monde l'étudie. C'était deux générations. J'ai entendu Rabbi Shlomo Kaberman a dit, au nom de Chazon Ish, il dit ça pour deux générations. Et après, que le rabbin il décide comment il faut faire. En tout cas, ici, Rabbi Gamliel, venant chez Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, Tov, à notre génération, maintenant, c'est bien d'étudier. Il faut faire attention. Il faut aussi avoir un métier, parce que sinon, Sofa Betela. C'est-à-dire quoi, Sofa Betela? À la fin, elle bat-elle. Au début, ça marche. Au début, l'homme il peut se priver. Donc, la famille est petite. Ça ne coûte pas cher. Et après, avec le temps, où les dettes s'accumulent, à la fin, ça ne marchera plus. Il ne pourra plus étudier. Et il va chasser gorer et tavon. Mais c'est vrai qu'Hachem, il a fait beaucoup d'énissim pour cette génération. D'énissim, d'énissim. En 1945, il aurait pu imaginer que 70 années après, tous les shivot sont pleins à craquer, tous les kolim sont pleins à craquer, les Bet Yaakov et les Hadarim. Et Baruch HaShem, tout le monde a mangé, c'est un S. En Lituanie, on mangeait du pain. Raikin est raconté à la yeshiva de Branevitch Rabbanan Wasserman, le petit déjeuner, c'était un peu de pain, mais il n'y avait pas pour tout le monde. Ceux qui ont pris la tefila, il a couru, il a pris un kezaï du pain, il avait mangé. Ceux qui venaient en retard, ils ne mangeaient pas 10 minutes après de Shacharit, le chiot commencé, on avait 10 minutes et tu viens pas, eh ben, tu ne manges pas, hein, tu mangeras à midi ou tu mangeras le soir. Il y avait une grande pauvreté. Aujourd'hui, un chesed Hashem, il a fait tout ça. La Deuxième Guerre mondiale a transformé le monde entier. Tout passé, le monde entier est transformé. Le Klal Israël est transformé. En Eretz Israël, tout est transformé. Dans les gens des Torah, les gens Foum, tout est transformé. Un grand chesed. Mais il y a un yann, faire attention. La fête al Torah, derrière Shigiat Shneem. Bon, on va voir, mais demain, à 5 heures, on va continuer.